Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Ça me fait grand plaisir de vous accueillir à cette deuxième partie de notre discussion sur Israël dans le plan de Dieu avec le professeur Sylvain Romerowski. La conversation a été commencée la semaine dernière, mais comme on a prolongé et qu'on a dépassé le temps raisonnable pour vous présenter en un seul épisode, j'ai décidé d'en faire deux parties. Alors, si vous n'avez pas eu l'occasion encore d'entendre la première partie, ben, je vous conseille fortement de débuter avec la partie 1. Il y a un lien dans la description pour pouvoir le retrouver aisément sur les différentes plateformes. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner en balado ou sur la chaîne YouTube ou de quelque méthode que ce soit. Vous pouvez également le faire en vous abonnant sur le site Un héros dans le net, vous abonner par courriel, comme ça vous recevez aussi par email les différentes mises à jour, incluant celle de Coram Deo. Donc, on a débuté avec quelques questions la semaine dernière. Je vous ai également présenté un livre recommandé par Publication Chrétienne. Donc, c'était le livre « La société juive à l'époque de Jésus-Christ » du docteur Alfred Edersheim. Et puis, ça correspond bien au thème de notre émission. Vous trouverez un lien pour vous procurer ce livre dans la description. C'est toujours intéressant de pouvoir se remettre dans le contexte historique des Écritures, ça enrichit la lecture de la parole de Dieu et c'est ce que ce livre va vous aider à faire. Donc, on a vu jusqu'à présent avec le docteur Romerowski les différentes visions d'Israël parmi les chrétiens, la question du statut unique d'Israël. On avait conclu également avec les promesses de restauration d'Israël et je lui ai posé une question que vous allez réentendre. Je vais débuter donc avec la question sur laquelle on s'est laissé la semaine dernière. C'est vraiment excellent, votre présentation. En fait, je trouve que ça répond à toutes les difficultés qui sont souvent soulevées, entre autres par le point de vue dispensationaliste, qui, considère que souvent l'interprétation qu'on fait des passages des prophètes qui annoncent la restauration est problématique parce que si on considère juste le retour de l'exil comme étant l'accomplissement de ses promesses, ben c'est bien en deçà de ce qui est entrevu. Si on, comme vous dites, on a tendance à dire mais ça ne parle que du salut ou que d'une restauration spirituelle, ben c'est peut-être un peu capillotracté où on spiritualise excessivement. Mais en fait, il y a comme trois temps. Il y a d'abord un accomplissement historique d'une première restauration. Dieu n'a pas abandonné Israël, le ramène dans sa terre, mais ce n'est pas encore le paradis. Il y a un élément spirituel qui vient avec ce salut qu'on obtient en Christ qui est pas matériel. Là, c'est une nouvelle naissance, c'est un changement de cœur. Ça commence à l'intérieur, mais qui va culminer à son retour en gloire dans une transformation complète des cieux et de la terre et de tous ceux qui vont les habiter. Et là, on a comme ce point culminant dans de ce qui était annoncé chez les prophètes. Et finalement, c'est pas un millénium futur, mais c'est déjà quelque chose qui est commencé en Christ, dans ce salut, mais qui va culminer lors de sa parousie et qui est rien de moins finalement que la résurrection d'entre les morts. Vous attendez pas finalement un accomplissement, un entre-deux entre le salut en Christ et la résurrection finale? Est-ce que vous avez une place pour un millénium ou vous pensez que l'aboutissement ultime de ces promesses-là, c'est la résurrection finale? Et si c'est votre lecture, comment donc vous expliquez dans certaines prophéties qu'il semble dire que celui qui mourra, par exemple, à 100 ans sera vu comme étant maudit et que c'est parfois là où on peut pas le voir comme étant la résurrection finale parce que la mort est mentionnée et encore des éléments qui appartiennent à l'ancienne création?
Oui. Alors tout d'abord sur trois étapes, oui, mais entre la deuxième et la troisième, en fait, il y a une certaine continuité. Je parlais d'un processus. Et la deuxième étape démarre un processus et ce processus se prolonge tout au long de l'histoire actuelle pour le peuple de Dieu. Et un processus qui aboutit donc à la fin, à la troisième étape, si on veut. Mais c'est pas, les deux étapes ne sont pas déconnectées. Nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles et nous avons déjà en partie le salut et nous bénéficions déjà de la vie éternelle, du salut. Mais il y a un pas encore. On n'est pas encore au bout et on n'a pas encore tout ce que représente le salut. Alors, est-ce que je pense qu'il y aura un million? Mais justement, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait que les promesses de bénédiction matérielle vont s'accomplir sur la nouvelle terre. Mais du coup, on n'a pas besoin d'insérer un millénium pour y voir l'accomplissement de ces prophéties. Alors, vous voulez savoir ce que je fais du texte d'Ésaïe 65. Donc là, il faut que je prenne le texte. Et tout en cherchant le texte dans ma Bible, ben, je vais me permettre une page de pub, puisque j'ai écrit un commentaire sur le livre de l'Apocalypse. Et à la fin du commentaire, il y a un excursus sur la question du millénium. Et je traite aussi dans cet excursus de ce texte d'Ésaïe 65 et d'autres textes qui sont parfois interprétés comme se référant au millénium. Alors, si on considère, déjà dans Ésaïe 65, Ésaïe nous dit de quoi il parle au verset 17. Je vais créer un ciel nouveau, une nouvelle terre. Il parle de la nouvelle terre, de l'état final, et non pas d'un millénium qui viendrait s'insérer entre les deux. Alors, les dispensationalistes diront oui, il parle de la nouvelle terre au verset 17, mais après, il parle d'autre chose. Mais saucissonner le texte comme ça n'est pas, à mon avis, une bonne manière d'interpréter le texte. Au verset 19, Ésaïe dit, on n'y entendra plus de pleurs, ni de cris de détresse. Là, plus de nourrissons emportés en bas âge, ni de vieillards qui meurent avant d'avoir atteint le nombre de ses ans. Donc, plus de peur, plus de détresse. Mais c'est encore la mort. Alors, il y aura des pleurs et des cris de détresse. Au verset, au verset 23, ils ne peineront plus pour rien, et les enfants auxquels ils donneront naissance ne seront plus destinés au malheur. Ils seront une race bénie par le Seigneur. Alors, si encore des gens qui meurent, on ne peut pas dire qu'on va enfanter des enfants qui ne seront plus destinés au malheur. Alors, comment est-ce que je comprends ce verset 20 qui dit « Donc, la pluie de nourrissons emportés en bas âge, ni de vieillards qui meurent avant d'avoir atteint le nombre de ses ans. » Et la semeur a traduit « Ce sera mourir jeune que de mourir centenaire. » Si un pécheur ne dépasse pas les 100 ans, c'est qu'il aura été maudit. Je pense que c'est une manière de dire on vivra tellement longtemps que si quelqu'un meurt à 100 ans, bah, on va dire, bah, celui-là, il meurt jeune. On va vivre tellement longtemps que si quelqu'un ne dépasse pas 100 ans, on va dire, bah, alors c'est qu'il a été, c'est qu'il a fait beaucoup de mal. Mais comment on peut dire que quelqu'un a fait beaucoup de mal alors qu'on nous dit juste avant qu'on n'entendra plus de pleurs ni de cris de détresse et qu'il est dit, alors je recherche, à la fin du verset 25, il ne se fera plus ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte. Mais s'il y a des pécheurs, il y aura encore du mal et de la destruction. Donc, si on considère qu'il y a encore des pécheurs dans la situation qu'Ésaïe décrit, il y a une contradiction dans le texte. Alors, je comprends ce texte comme Ésaïe est en train de nous dire, on vivra tellement longtemps que si quelqu'un meurt à 100 ans, on dira il meurt jeune. Si quelqu'un ne dépasse pas 100 ans, on dira il a commis de grosses fautes. Mais l'accent porte sur le « on vivra tellement longtemps ». Alors, ce n'est pas encore « on vivra éternellement », mais l'idée, c'est qu'on va vivre beaucoup plus longtemps que maintenant. Alors, si je dis maintenant, je ferai ceci ou cela la semaine des 4 jeudis, est-ce que ça veut dire que je crois qu'un jour, une semaine aura 4 jeudis ? Bien, si je dis j'irai à tel endroit quand les poules auront des dents, est-ce que ça veut dire que je crois que les poules auront des dents? Non, c'est une manière de s'exprimer. Ben, je crois qu'ici aussi, c'est une manière de s'exprimer pour dire on va vivre tellement longtemps que si jamais il y avait quelqu'un qui mourait à 100 ans, on dirait ben, celui-là, il était drôlement jeune pour mourir ou celui-là, il a dû commettre beaucoup de fautes. Mais l'idée, c'est qu'on va vivre très longtemps. Et en fait, alors, le Nouveau Testament nous apprend qu'on vivra éternellement. Voilà comment je comprends ce texte. Sinon, on a des contradictions dans le texte.
Je suis parfaitement en accord avec votre lecture. Je suis heureux de voir que, comme l'apôtre Jean et l'apôtre Paul, vous êtes amillénaristes. petit clin d'œil à mes frères qui ont une autre lecture pré-mille.
Alors, j'ai été pré-millénariste.
Mais donc,
mais le très Seigneur... jeune, je suis devenu amillénariste.
Oui. Ben voilà, ça résiste pas à une saine exégèse. Bon, moi, je le dis avec tongue in cheek, comme disent les Anglais, là, pour taquiner un peu. Non, je pense que c'est une lecture très, très cohérente. De l'ensemble des données qui rend bien compte et qui interprète l'ancien clairement à la lumière du nouveau, sans une conception préconçue où on impose des catégories, qu'on impose une théologie systématique, un millénium qu'on veut absolument voir, où il n'est pas mentionné mille ans, on dit ben, « Ah, ça, c'est le millénium parce qu'il y a des morts », et plutôt que de laisser parler le texte et d'accepter un peu la couleur les éléments plus idiomatiques. Finalement, le prophète Ésaïe nous parle de l'éternité, mais à partir un peu de sa connaissance du présent et de la bénédiction en faisant des comparaisons, des transpositions de ce qu'on connaît maintenant et analogiquement, si on transpose ça vers le siècle à venir, mais il ne nous dit pas littéralement ce que sera le siècle à venir et la révélation n'est pas encore complète. Mais le Nouveau Testament nous parle effectivement que cette longévité dont Ésaïe a commencé de parler exclura la mort. Et donc cette immortalité, elle est venue par le Messie d'Israël, par le Christ, qui a mis en pleine lumière l'immortalité, pas simplement comme une révélation, mais comme un accomplissement qui n'est pas venu, qui n'a pas été donné avant Christ. Il est le premier-né d'entre les morts, bien qu'il ne soit pas le premier à être ressuscité, mais il est le premier à avoir cette résurrection glorieuse. Les autres résurrections sont, on pourrait dire, typologiques ou incomplètes de ce qui devait venir.
Ils sont morts après.
Oui, c'est ça, ils sont morts deux fois.
Ils sont ressuscités provisoirement.
Voilà. La venue de Christ marque un point tournant dans l'histoire du peuple juif. c'est le point d'aboutissement, c'est l'attente. On chante à Noël depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Donc voilà que le Christ vient dans l'histoire. Qu'est-ce que sa venue signifie pour Israël? Comment est-ce que le Christ a accompli ce qui était prophétisé le concernant, mais comment ça bouleverse l'histoire du peuple d'Israël, puisque le peuple dans son ensemble n'a pas accueilli le Messie. La parole est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Israël est tombé dans l'endurcissement, nous dit l'apôtre, il y a un reste selon l'élection de la grâce qui accueille le Seigneur, mais ce n'est qu'un reste parmi la nation qui, dans son ensemble, le rejette. Alors, qu'est-ce que ça implique pour la nation elle-même?
Oui, alors, peut-être je vais aborder deux aspects. L'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament est l'histoire d'un rétrécissement progressif. En fait, au départ, Dieu agit avec l'humanité, Adam, Noé, ses descendants. Avec Abraham, il y a un premier rétrécissement, donc là, c'est le choix d'Israël. Mais Abraham, il a eu plusieurs fils. Il y a eu Ismaël, il y a eu les fils de Kétoura. Dieu choisit Isaac. Isaac a eu deux fils, Ésaü et Jacob. Dieu choisit Jacob et pas Ésaü. On peut se demander pourquoi. Parce que Ésaü et Jacob étaient tous les deux fils de Rebecca. Et à la génération suivante, tous les fils de Jacob vont hériter de la promesse. Mais donc, à partir d'Abraham, il y a rétrécissement à Isaac. Il faut que je monte mes mains un peu plus pour qu'on les voit. Il y a rétrécissement ensuite à Jacob. Et puis, ça continue. Donc, les descendants de Jacob rentrent en terre promise. Mais après Salomon, il y a le schisme. Le royaume du Nord tombe dans l'apostasie. Et le jugement vient sur le royaume du Nord. Le peuple de Dieu se réduit au royaume de Juda. Alors, dans le royaume de Juda, il n'y a pas que des descendants de Juda. Déjà, la tribu de Siméon était incorporée dans la tribu de Juda, puisque son territoire était au milieu de celui de Juda. Et puis, il y a des Lévites qui, au moment du schisme, sont venus en Juda. Et il y a aussi des Israélites du Nord qui sont venus en Juda. Puis, il y en a qui ont subsisté après la destruction du royaume du Nord en 722. Mais grosso modo, à partir de 722, le peuple d'Israël se réduit donc au royaume de Juda. Et puis après, à cause des infidélités du royaume de Juda, une bonne partie des Judéens sont massacrés par les Babyloniens. Et c'est une petite partie qui part en exil. Donc, rétrécissement progressif du peuple de Dieu. Et en fait, ce rétrécissement aboutit en quelque sorte à un seul individu. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le véritable Israël. Quand Jésus dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments », en fait, il fait allusion au fait que, au texte d'Ésaïe 5, par exemple, où Israël est comparé à la vigne du Seigneur. Et on aboutit à ça, c'est Jésus-Christ qui est en fait le véritable Israël. Quand il dit « je suis le cep », il dit « je suis le véritable Israël ». Et on pourrait montrer aussi, Matthieu, au début de son évangile, fait un parallèle entre Jésus et Israël et présente Jésus comme le véritable Israël. Et donc, à la fin de la période de l'Ancien Testament, le peuple d'Israël se réduit à un seul individu, c'est Jésus-Christ. À partir de cet individu, donc Jésus rassemble autour de lui des disciples qui forment le reste d'Israël. Enfin, en plus des disciples, il y a les Israélites fidèles qui forment le reste d'Israël, et puis ensuite des non-juifs sont incorporés. Et donc, à partir de Jésus, le mouvement est inverse. Le peuple de Dieu s'élargit. Donc, tout d'abord, le reste d'Israël, Et puis, c'est le mouvement d'acte 1, d'acte de, du livre des actes. Après, il y a les Samaritains. Et après, il y a les non-juifs. Et les Samaritains qui correspondent grosso modo au royaume du Nord de l'Ancien Testament. Et puis ensuite, les non-juifs. Donc ça, c'est un premier aspect dans la théologie biblique. Alors, qu'est-ce que la venue de Christ accomplit, en quoi ça bouleverse les choses pour Israël? Bien, les prophètes avaient annoncé, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce n'est pas tout Israël qui serait sauvé, mais un reste seulement. Et ils avaient annoncé déjà que les Israélites infidèles seraient retranchés du peuple de Dieu. Et c'est ce qui se passe avec la venue de Jésus. Et là, je prends donc dans l'évangile de Luc, au chapitre, alors je crois que c'est le chapitre 2, après, non, c'est le chapitre 3, pardon. Chapitre 3, donc c'est Jean-Baptiste qui parle, alors que je retrouve le texte. Voilà. Chapitre 3, verset 16. Donc c'est Jean-Baptiste qui parle. Moi, je vous baptise dans l'eau, mais quelqu'un va venir qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas même digne de dénouer la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient en main sa pelle à vanner pour nettoyer son aire de battage. Il amassera le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra pas. Eh bien ici, le blé représente les Israélites qui ont reconnu Jésus comme le Messie, qui ont eu foi en lui, les Israélites fidèles à Dieu. La balle représente les Israélites qui ont rejeté le Messie. Et donc, le tri annoncé par les prophètes au sein d'Israël s'opère. Jésus rassemble autour de lui ceux qui mettent leur foi en lui et les autres Israélites, eh bien, sont exclus du peuple de Dieu. On retrouve la même idée dans Jean 15, quand Jésus, je l'ai dit tout à l'heure, dit « Je suis le cep », ben, il se présente comme le véritable Israël. Les sarments qui sont en lui et qui portent du fruit, ce sont les Israélites qui ont foi en lui. Les sarments qui ne portent pas de fruits, qui sont jetés au feu, ben, comme dans le texte de Luc que nous venons de lire, ce sont les Israélites qui ont rejeté le Messie et qui se trouvent exclus du nouveau peuple de Dieu. Et en parallèle, ben, il faut citer l'image de l'olivier dans Romains 11 qui représente Israël. Sur cet olivier, il y a des branches naturelles qui subsistent, qui sont les Israélites qui ont mis leur foi en Christ. Les branches naturelles qui sont coupées, ce sont les Israélites qui ont rejeté le Messie. Et puis là, dans Romains 11, on a aussi des branches qui viennent d'un autre olivier qui ont été greffées. Ce sont les non-juifs qui ont mis leur foi en Jésus. Et ça s'accorde avec l'enseignement des prophètes, je l'ai dit tout à l'heure, les prophètes qui ont annoncé que des non-israélites seraient incorporés au peuple de Dieu. Ça rejoint ce que Jésus dit dans Jean 10 au verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie », et il parle des non-juifs, « il faut que je les amène, et il y aura un seul troupeau, un seul peuple de Dieu, constitué des Israélites qui ont la foi et des non-israélites qui ont la foi. » On pourrait citer aussi Romains 4. Les véritables enfants d'Abraham, ce sont les non-juifs qui croient, qui ont la foi, comme Abraham qui a eu la foi avant d'être circoncis. Et ce sont les juifs qui ne se contentent pas d'être circoncis, mais qui ont la même foi qu'Abraham. Et donc, à partir de la venue de Jésus, en fait, en Jésus se fonde ce nouveau peuple de Dieu, exclusivement constitué de véritables croyants, mais qui sont issus aussi bien d'Israël que des autres peuples.
Et donc, c'est là que prennent fin, qu'on pourrait dire, les traits distinctifs qui sont propres à Israël sous l'Ancienne Alliance, la loi des ordonnances, qu'on peut distinguer de la loi morale qui a un caractère universel, mais les lois qui visaient vraiment à mettre Israël à part, à préserver de l'amalgame avec les nations. Au niveau des lois alimentaires, vestimentaires et autres, qui semblent avoir été là pour un temps, comme une tutelle pendant l'enfance du peuple de Dieu, pour reprendre l'expression de l'apôtre. Et j'aime comment, finalement, cette lecture rejoint un principe que vous avez mentionné au début de notre échange, que Israël sert un peu de microcosme à l'humanité. Et parce que ce rejet du Messie et cette perte du privilège d'être le peuple de l'Alliance ne va pas juste arriver tout bonnement, mais ça vient avec un jugement que le Christ lui-même annonce. Et quand on réfléchit à la fin de l'Ancienne Alliance, quand est-ce qu'elle termine l'Ancienne Alliance? Je ne crois pas qu'elle termine du jour au lendemain. La Nouvelle Alliance, elle est révélée progressivement depuis l'Ancien Testament, et puis elle est conclue formellement lorsque le Christ verse son sang, le sang de l'Alliance, et qui, dans les étapes qui vont succéder, il va être enseveli, il va ressusciter, il va monter à la droite de Dieu, il va répandre le Saint-Esprit sur son Église. Ce sont des éléments qui amènent à l'établissement formel et à la pleine révélation de la Nouvelle Alliance. Mais parallèlement, quand est-ce que l'Ancienne Alliance termine? Et je pense, la lecture que je fais, c'est que Jésus annonce que l'Ancienne Alliance va se terminer par un jugement sur cette nation lorsqu'il annonce la destruction de Jérusalem, du Temple, qu'il ne restera pas pierre sur pierre, et que les événements qui se sont produits de l'an 66 à 70, la guerre des Juifs contre les Romains, ne sont pas simplement des événements historiques sans signification théologique ou biblique ou eschatologique, comme il peut en arriver tous les jours. C'est pas comme, par exemple, la Shoah de la Deuxième Guerre mondiale, qui est un événement fort triste, mais je ne pense pas qu'il y ait la même portée théologique que pouvait avoir cet événement, parce que Christ a annoncé que ces événements arriveraient sur cette génération particulière. C'est ceux qui étaient les auditeurs vivants au moment où il a annoncé les événements. Et là, le lien que je veux faire avec ce que vous aviez dit initialement, c'est que quand Jésus annonce dans Matthieu 24 et dans d'autres discours eschatologiques le jugement sur Israël, il trace un parallèle avec les nations, où il dit que leur tour viendra. Et ma compréhension, c'est que Jésus dit d'abord le jugement pour le peuple juif, parce qu'ils ont rejeté le Messie, mais ensuite ce même jugement de Dieu qui vient de façon locale, d'une façon, si on veut mesurer, limitée dans le temps, dans l'histoire, va avoir une portée universelle et ultime lors du jugement dernier, à la fin du monde, pour tous ceux qui n'auront pas accueilli le Christ comme le Messie, comme le Sauveur. Donc on a d'abord Israël qui est un microcosme, qui est une image de l'humanité, qui a un échec vis-à-vis de la loi, mais qui n'accueille pas non plus celui qui accomplit la loi pour lui, et puis qui, à cause de cela, perd ses privilèges de peuple d'alliance et reçoit la malédiction et le jugement. Mais la même chose va se produire pour toutes tous les hommes, finalement, qui accueilleront pas le Messie. Est-ce que vous faites une lecture similaire des oui, annonces de alors, jugement?
Il y aurait plusieurs choses à dire là. Déjà, la Nouvelle Alliance, je dirais, elle vient aussi, enfin pas d'un coup. Et les fondements de la Nouvelle Alliance, c'est la mort de Jésus, c'est sa résurrection, c'est l'ascension, c'est la Pentecôte. Donc, elle met un certain temps à s'établir. Mais je vois effectivement la période qui sépare ces événements de la destruction de Jérusalem et du Temple en 70 comme une période de transition. Et période d'ailleurs pendant laquelle l'Évangile devait être annoncé en priorité aux Juifs. Par les événements de l'an 70, Dieu entérine le rejet du Messie par Israël en tant que peuple, parce qu'il fallait que ce rejet, pour se manifester et se manifester dans les différentes parties de l'Empire, il fallait aussi qu'il y ait un certain laps de temps qui s'écoule. Et donc, les événements de 70 entérinent le rejet du Messie par Israël en tant que peuple, globalement, à part donc le reste. Donc, celle, je dirais, la fin de l'Ancienne Alliance. Par contre, à propos de la loi mosaïque, alors moi j'ai une toute autre approche. Je ne pense pas que la loi mosaïque soit abolie. Jésus a dit « je ne suis pas venu pour abolir ». Je pense que la loi de Moïse subsiste. Je ne crois pas que les prescriptions alimentaires avaient simplement pour but de garder Israël à part des autres peuples. Je crois qu'il y a une raison théologique beaucoup plus profonde à cela. Mais alors là, il faudrait développer ce point. Alors, sur les prescriptions alimentaires, j'ai rédigé un article qui est apparu dans Fac Réflexion, ça c'est une nouvelle page de pub, et qui est accessible, je pense, sur Fac Réflexion ou sur mon blog. Alors, mon blog, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site de l'Institut biblique de Nogent et il y a donc un chemin d'accès au blog de Lydia Yeager et du mien sur le site de l'Institut biblique de Nogent. Et donc, il y a cet article sur la loi sur les animaux purs et impurs. Où je défends une autre approche. Et de manière globale, je pense que la loi n'est pas abolie. Au contraire, et ça c'est une formule d'Henri Blocher, la nouvelle alliance englobe l'ancienne en la dépassant. Et la loi de l'ancienne alliance est englobée dans la nouvelle, mais en la dépassant. Mais là, il faudrait que je développe un peu plus.
Ben, c'est ça, là. Vous soulevez plein de questions dans ma tête sur qu'est-ce que ça implique. Je vais essayer de pas faire dérailler le train. Bon, l'objet de notre échange, c'est vraiment de se concentrer sur Israël. Mais si, donc, on revient après le rejet du Messie par Israël qui va amener la fin de l'Ancienne Alliance, que vous distinguez de la loi mosaïque, et va donc amener la Nouvelle Alliance à être établie, pleinement révélée, que la chute d'Israël donne un peu aussi l'accès aux païens, que Dieu utilise providentiellement ces circonstances-là. Qu'est-ce qui reste du statut d'Israël dans le plan divin et des promesses par rapport à la Terre Sainte, par rapport aux soins providentiels de Dieu pour Israël, après le rejet du Messie et après la fin de l'Ancienne Alliance, est-ce qu'Israël est présentement au même rang que toutes les autres nations?
Alors, je dirais Israël en tant que peuple est mis au même rang que les autres nations. Ça correspond à ce que Osée dit de la part de Dieu aux Israélites du Nord, vous n'êtes plus mon peuple. Parce qu'ils sont infidèles, ils ne sont plus le peuple de Dieu. En même temps, à cause du rôle de ce peuple dans l'histoire du salut, et Romains 11 dit à cause des patriarches, Dieu a quand même quelque chose de spécial en vue pour Israël en tant que peuple, pour la fin. Mais pour l'instant, Israël n'est plus le peuple de Dieu, Israël en tant que peuple. Font partie du peuple de Dieu, les Israélites, qui ont la foi. Que dire du pays d'Israël? Déjà, les prophètes annoncent qu'à l'époque du salut, le territoire du peuple de Dieu va s'élargir et englober le territoire d'autres peuples. Et même plus loin, dans le psaume 2, il est promis au roi Davidique, « Demande-moi et je te donnerai les extrémités de la terre pour héritage. » Et donc, l'ensemble de la terre est promise déjà là à la dynastie Davidique. Chez les prophètes, dans le livre d'Abdias, il est dit que les Israélites posséderont le territoire d'Édom. Dans le livre, alors chez Michée, au chapitre 7, allez, je vais encore faire une page de pub, est sorti au mois de novembre le premier volume de mes manuels sur les prophètes, et donc il y a le livre de Michée dedans, et je défend là la compréhension du texte que je vais lire dans la Bible du Semeur. Il faut que je le retrouve. Chapitre 7 du livre de Michée, verset 11. « Voici venir le jour où l'on rebâtira les murs de votre ville, et voici ce jour-là, on repoussera tes frontières. » Et ce jour te seront rendus le territoire que délimitent tes frontières de l'Assyrie jusqu'à l'Égypte, de l'Égypte jusqu'au fleuve, donc jusqu'à l'Euphrate, d'une mer à l'autre, d'une montagne à l'autre. Donc l'idée d'un élargissement du territoire du peuple de Dieu. Et puis ensuite, dans le livre de Sophonie, au chapitre 2, alors, tout d'abord, il est question du territoire de Moab, au verset 9, et il est dit à la fin du verset 9, « Le reste de mon peuple épiera, oui, ce qui restera de ma nation en prendra possession du territoire de Moab. » Et puis, j'aurais dû lire avant au chapitre 2, verset 7, là il s'agit du territoire des Philistins. Donc, chapitre 2, verset 7, « Ce district va échoir au reste du peuple de Juda. » Et donc, dans le psaume 2, c'est même les extrémités de la terre qui sont promises au peuple de Dieu. Et alors, dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 4, Paul dit que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa descendance. L'héritage du monde. Dans Matthieu 5, dans les Béatitudes, alors, Jésus reprend un texte de l'Ancien Testament. Heureux ceux qui sont doux. Alors, il reprend la référence, elle est là, c'est le psaume 37, verset 11. « Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. » Dans le psaume 37, c'est Dieu leur donnera le pays en héritage. On a la même transposition, je dirais, dans Éphésiens 6, et honore ton père et ta mère, car c'est ainsi que tu vivras de longs jours dans le pays que le Seigneur te donne. Ça, c'est le texte du Décalogue, dans Exode 20. Tu vivras de longs jours dans le pays que le Seigneur te donne. Et Paul cite ce commandement en disant, honore ton père et ta mère, donc Éphésiens 6, versets 2 et 3. C'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Et donc, du pays, on passe à la terre. Ce qui me fait dire que le don du pays, ou plutôt que le pays, fonctionne comme les prémices de la terre entière, comme une préfiguration de la terre entière. En fait, le pays d'Israël doit être vu comme le gage que Dieu voulait donner la terre entière à Abraham et à sa descendance, mais pas sa descendance selon la chair, pas sa descendance naturelle, mais la descendance dont il est question de Romains 4, constituée de tous les croyants, juifs et non-juifs. Et donc, le pays qui est destiné au peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, c'est Israël augmenté des autres. Ce n'est pas qu'Israël n'est plus le territoire du peuple de Dieu, c'est Israël augmenté des autres. De la même manière que le peuple de Dieu s'élargit à partir du reste juif pour englober des gens de tous les peuples, le territoire du peuple de Dieu doit s'élargir pour englober, en fait, toute la terre. Et quand Jésus reviendra, le peuple de Dieu règnera avec Christ sur la terre entière. Alors, la question parle de terre sainte. Que reste-t-il du salut d'Israël dans le plan divin et des promesses quant à la terre sainte? Qu'est-ce que c'est qu'une terre sainte? Qu'est-ce que c'est qui fait qu'un lieu est saint? Un lieu est saint et un lieu est rendu saint par la présence de Dieu. Le buisson ardent est un lieu saint parce que Dieu est là, de manière spéciale. Alors bien sûr, Dieu est omniprésent, mais là je parle de la présence spéciale de Dieu. Le tabernacle, le temple sont des lieux saints parce que Dieu est venu habiter. Il est présent de manière spéciale dans le tabernacle et dans ensuite dans le temple. Alors, comme la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem est décrite dans Apocalypse 21 et 22, en fait, il apparaît qu'il n'y a pas besoin de temple parce que Dieu sera là présent, on rencontrera Dieu à tous les coins de rue. Et donc, la nouvelle Jérusalem sera sainte. Mais aujourd'hui, il y a déjà une anticipation. Parce que Jésus a dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, si là où on est assemblé au nom de Jésus, il est au milieu de nous, ben on se trouve en terre sainte. La terre sainte, c'est là qu'elle est aujourd'hui. Là où deux ou trois sont assemblés au nom de Christ. Et c'est une anticipation de ce que nous connaîtrons quand nous serons sur la nouvelle terre, qui sera entièrement sainte. De la même manière que le peuple de Dieu s'élargit pour englober les croyants d'origine non juive, le pays d'Israël s'élargit pour englober la terre entière. Et déjà maintenant, quel que soit l'endroit où on se trouve sur la terre, là où deux ou trois sont assemblés, c'est un lieu saint.
Merci, ça clarifie grandement toute cette question-là. Et c'est vraiment intéressant de faire le parallèle finalement entre l'élargissement du peuple et l'élargissement du territoire, puisque l'un va avec l'autre. Et si finalement les promesses s'adressent à tous les peuples, ben ça doit inclure tous les lieux où ce peuple habite. Très persuasif.
C'est une logique.
Ouais. Maintenant, quel est le rôle d'Israël, s'il y en a un, et un texte en particulier, on aurait pu faire une émission juste sur Romains 11. Mais rapidement, en conclusion, est-ce que vous pouvez nous donner un survol interprétatif de Romains 11, en particulier de la question d'un salut futur pour le peuple d'Israël?
Alors, on a déjà abordé certaines choses à partir de Romains 11. Romains 11, donc, pose la question « Dieu a-t-il rejeté son peuple ?» Et Paul répond, donne trois éléments de réponse. Deux qui concernent le présent, un qui concerne l'avenir. En tout cas, c'est comme ça que je comprends le texte. Premier élément de réponse, au chapitre 1, au verset 1 à 10, dans Romains 11, Dieu n'a pas rejeté son peuple, il a simplement rejeté ceux qui ne croient pas en lui. Mais il y a un reste d'Israël qui subsiste, et Paul souligne qu'il en fait partie. Et je pourrais dire moi aussi, d'ailleurs. Donc, il y a un reste aujourd'hui d'Israël. Dieu n'a pas mis une croix sur Israël. Il n'a pas rejeté son peuple. Les promesses qu'il a faites à Israël s'accomplissent pour le reste. Deuxième élément de réponse, c'est au verset 11 à 15. Alors là, il faut peut-être les lire. Donc, si les Israélites ont trébuché, est-ce pour tomber définitivement ? Loin de là. Et Paul explique ensuite par leur faute, le salut est devenu accessible aux non-juifs, ce qui excitera leur jalousie, etc. Et Paul dit, ah oui, alors au verset 12, il leur dit, si leur faute a fait la richesse du monde et leur déchéance la richesse des non-juifs, quelle richesse plus grande encore n'y aura-t-il pas dans leur complet rétablissement ? Leur complet rétablissement, ce n'est pas comme ça que je traduirais, mais c'est dans leur... oui, leur... enfin, c'est l'idée que tous les Juifs qui doivent se convertir, se convertiront. Et donc, Paul est en train de dire, d'accord, ces Israélites, ils ont rejeté Jésus, mais leur chute n'est pas définitive. Ils peuvent encore se convertir. Et c'est ce qu'il faut souhaiter. C'est quelque chose de formidable, c'est une richesse quand des Juifs se convertissent. Et ce sera formidable quand tous ceux qui doivent se convertir, tout au long de l'histoire, j'entends, devront se convertir. Verset 13, je m'adresse particulièrement à vous qui êtes d'origine païenne. Dans la mesure même où je suis l'apôtre des non-juifs, je me fais une idée d'autant plus haute de mon ministère que je parviendrai peut-être en l'exerçant à rendre jaloux ceux de mon peuple et à en conduire aussi quelques-uns au salut. Et c'est ce verset qui me fait dire, contrairement à une autre interprétation, que Paul parle de ce qui se passe à son époque et encore maintenant. Paul, par son ministère, espère amener au salut un certain nombre de Juifs. Leur chute n'est pas définitive. La porte est encore ouverte pour eux. Ils peuvent encore se convertir dès à présent. Et Paul espère, par son ministère, en amener au salut. Et verset 15, car si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, quel sera l'effet de leur réintégration ? Rien de moins qu'une résurrection. Quand un Juif se convertit, c'est aussi formidable qu'une résurrection. C'est ça que Paul est en train de dire dans ce texte, et il s'adresse particulièrement aux croyants d'origine païenne. Pourquoi ? Ça prépare le chapitre 14 et 15. Au chapitre 14 et 15, il est question de dissension et d'attitude pas très juste entre des faibles et des forts. Les faibles, ce sont des gens qui sont attachés aux prescriptions rituelles de la loi mosaïque. Les forts, ce sont ceux qui n'en font pas cas. Les faibles, ce sont des Juifs qui sont convertis, mais qui sont encore attachés aux prescriptions de la loi mosaïque. Pas forcément tous les Juifs convertis. Priscille et Aquilas, par exemple, n'étaient pas forcément, comme Paul, attachés aux prescriptions rituelles de la loi mosaïque. Et alors, Paul exhorte ceux qui ne sont pas attachés à ces prescriptions rituelles à ne pas mépriser ceux qui y sont attachés et à ne pas être pour eux une occasion de chute. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut souhaiter, c'est la conversion de juifs. Et si on souhaite la conversion de juifs, il ne faut pas qu'on soit un obstacle à cette conversion. Or, si on méprise les chrétiens juifs qui sont encore attachés aux prescriptions rituelles de la loi mosaïque, ça va être un obstacle à la conversion d'autres juifs. Et Paul est en train de dire non, la porte est encore ouverte et il faut souhaiter, il faut tout faire pour que des juifs se convertissent. Donc ça, c'est le deuxième volet dans ce texte. Et puis il continue donc avec la métaphore de l'olivier dont on a parlé tout à l'heure. Et Paul dit, Dieu est capable de regreffer ces branches naturelles qui ont été coupées de l'olivier. Et donc, des juifs peuvent se convertir encore aujourd'hui. Le troisième volet concerne l'avenir. Alors là aussi, ces versets sont débattus. Je les lis au verset 25 et 26. Frères et sœurs, je ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance de ce mystère, pour que vous ne croyiez pas détenir en vous-même une sagesse supérieure. L'endurcissement d'une partie d'Israël durera jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré dans le peuple de Dieu. Autrement dit, Israël est pour l'instant, Israël globalement, le peuple de Dieu dans son ensemble, enfin le peuple d'Israël, pardon, dans son ensemble, est endurci, il rejette son Messie, mais cet endurcissement prendra fin, il ne va durer que jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré dans le peuple de Dieu. Autrement dit, l'ensemble des non-juifs qui doivent se convertir. Quand l'ensemble des non-juifs qui doivent se convertir seront entrés dans le peuple de Dieu, l'ensemble des élus, alors l'endurcissement des Israélites, du peuple d'Israël globalement, du peuple juif, prendra fin. Et de la sorte, tout Israël sera sauvé. Je comprends donc que à la fin de l'ère présente, il y aura une conversion massive du peuple juif, soit juste avant le retour de Christ, soit peut-être au moment du retour de Christ. Alors, si, comme j'ai dit tout à l'heure, Israël n'est plus le peuple de Dieu, ce n'est pas logique qu'il y ait quelque chose de particulier pour Israël. Et Paul souligne d'ailleurs dans la suite du développement, il dit donc, si l'on se place du point de vue de l'Évangile, ils sont devenus ennemis de Dieu pour que vous en bénéficiez. Et ces Israélites incrédules ne font plus partie du peuple de Dieu. Mais du point de vue du libre choix de Dieu, ils restent ses bien-aimés à cause de leurs ancêtres, car les dons de la grâce et l'appel de Dieu sont irrévocables. Vous-même, en effet, vous avez désobéi à Dieu autrefois, et maintenant Dieu vous a fait grâce en se servant de leur désobéissance. De la même façon, si leur désobéissance actuelle a pour conséquence votre pardon, c'est pour que Dieu leur pardonne à eux aussi, car Dieu a emprisonné tous les hommes dans la désobéissance, donc il a mis les Juifs incrédules au même rang que les païens. Ils ne sont plus le peuple de Dieu. Dieu a emprisonné tous les hommes dans la désobéissance afin de faire grâce à tous. Alors on peut dire, s'ils ne sont plus le peuple de Dieu, mais il n'y a pas de raison que Dieu fasse quelque chose pour eux. Bien, à ça je réponds que Dieu ne sauve pas par logique, il sauve par grâce. C'est-à-dire qu'il va faire quelque chose de spécial pour Israël quand Israël a perdu tous ses privilèges, tout droit à ce que Dieu fasse quelque chose de spécial pour lui. Dieu ne sauve pas par logique, il sauve par grâce. Et il sauve Israël quand Israël a tout perdu, a perdu son droit à être le peuple de Dieu, a perdu son droit à ce que Dieu fasse quelque chose de spécial pour lui. Mais Dieu le fait par grâce. Voilà ce que je peux dire en résumé sur Romains 11.
Ben, ça boucle bien la boucle de notre présentation sur cette théologie biblique d'Israël. Vous avez dit en commençant que vous êtes tout autant que Paul, faites partie de ce reste. Est-ce que vous l'entendez dans le sens où on considère les gens, les gentils comme étant le reste, ou parce que vous vous identifiez comme juif?
Mes quatre grands-parents étaient juifs. Donc, je suis juif 100%.
D'accord. Alors, je comprends que pour vous, ça a une dimension encore plus personnelle de vous identifier avec ce reste élu selon la grâce de Dieu et cet amour que vous avez vous-même et que vous nous exhortez à avoir pour le peuple juif, comme l'avait l'apôtre Paul, qui regardait ses compatriotes qui étaient aveuglés, qui ne voyaient pas en Jésus, le Messie glorieux. On se joint à vous pour prier pour ce peuple, pour que le Seigneur puisse conduire beaucoup de Juifs à reconnaître que Jésus est le Messie, le Sauveur, à fléchir le genou devant lui, à embrasser le Fils et pour entrer dans son royaume.
Mmh. Mais je l'ai glissé comme ça au passage parce que certains accusent ceux qui ont la position que j'ai sur la théologie biblique d'Israël d'antisémites. Bon, on jugera.
Voilà, je pense que c'est la position d'amour véritable que les apôtres ont eue pour leurs compatriotes, de leur annoncer le salut en Jésus-Christ. Merci énormément, professeur Omerowski, pour ces échanges, pour ces deux émissions. On a parlé tout d'un trait, mais finalement, ça aura donné deux émissions parce qu'il y a beaucoup à dire sur la théologie biblique d'Israël. C'est rare où je suis autant en accord avec un invité, surtout sur une question aussi pointue, mais je sens que ma théologie des alliances et mon interprétation d'Israël dans le plan de Dieu rejoint exactement votre lecture. Je serais curieux d'en savoir un peu plus sur votre compréhension de la loi de Moïse et comment elle est englobée dans la Nouvelle Alliance. Peut-être faudra vous réinviter pour en parler dans une prochaine émission.
Ah, pourquoi pas?
Excellent.
Pourquoi pas? En tout cas, c'était avec plaisir. Et si on peut être utile, éclairer la parole de Dieu.
Kama kassim shamarti bimyuchad lecha ta yakar li kama merirut asafti bimyuchad bishvilcha ata achi yakar li ratziti ladat levater lecha ratziti ladat לוותר לך רציתי לדעת לוותר לך רציתי לדעת לוותר לך כמה מחשבות פרידה שנאה בתוך כל זה צומחת לנו עבר
אמן ועשיתי très utile en effet. J'aimerais donc vous donner l'opportunité. Vous avez fait un peu de publicité ici et là, mais vous sortez prochainement également un autre commentaire biblique qui devrait paraître. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et comment on peut se procurer la plupart de vos ouvrages?
Alors oui, je suis en train de travailler, enfin je ne suis pas loin du bout, sur un commentaire sur le livre de Daniel qui doit paraître dans la série des commentaires publiés par la faculté de Vaud. J'espère qu'il sortira pour le Centre évangélique au moins le premier volume, puisqu'il risque d'y avoir deux volumes, en fait. Donc, au mois de novembre prochain. Alors, ce qui est prévu aussi, c'est que je continue, ça m'a été demandé, donc la série sur l'ensemble des prophètes de l'Ancien Testament, il devrait y avoir 5 volumes. Donc le premier est sorti au mois de novembre dernier. Sinon, j'ai plusieurs ouvrages. Donc, j'ai parlé du commentaire sur l'Apocalypse. J'ai écrit un commentaire sur le livre du Coëlète, c'est-à-dire l'Ecclésiaste. J'ai écrit un livre sur une théologie biblique de l'œuvre du Saint-Esprit. Et aussi un ouvrage sur l'apport des sciences du langage moderne, donc la linguistique générale, à l'exégèse biblique. Voilà, qui est épuisé, mais en fait, la nouvelle édition est à la composition à l'heure actuelle. Donc ça devrait sortir d'ici l'été, je pense.
Ben, merci pour ces ressources. Est-ce que vous avez publié, c'est publié avec
On le trouve sur
Excelsis?
le site d'Excelsis.
D'accord, donc c'est celui qui a l'exclusivité de vos œuvres, là.
Oh, l'exclusivité, je n'exclus pas d'être édité par d'autres. Bon, j'ai publié un texte dans un ouvrage publié, je crois, par les éditions Clic. D'ailleurs, je me demande si vous n'avez pas aussi un article sur. Enfin, c'est l'ouvrage qui s'intitule Hors contexte.
Oui, tout à fait.
Je ne suis pas sûr que vous n'avez pas
Oui,
contribué
j'ai
aussi.
contribué à Hors contexte et puis le plus récent aussi sur les apparentes contradictions ou contradictions apparentes, là, je suis jamais
Ouais,
certain.
c'est ça. Alors là, on m'avait demandé, mais j'ai trop de choses et je n'ai pas, il y aurait beaucoup à dire là aussi. Mais bon, je n'ai pas pu contribuer à celui-là.
Très bien. Ben, dans tous les cas, je vais mettre dans la description de cet épisode les liens vers les différentes choses qui ont été mentionnées, à la fois le blog de M. Romerowski, la page d'auteur, si on peut retrouver tous ces livres-là sur Excelsis, l'article que j'ai mentionné en introduction qui résume sa position sur Israël, celui en français et peut-être un peu plus élaboré en anglais. Encore, je vous remercie, professeur Romerovski, pour votre temps et ça a été très édifiant et très utile d'avoir ce propos avec vous aujourd'hui.
Voilà, bien avec plaisir. Merci pour l'invitation.
Chers auditeurs, je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Coram Deo. Si le Seigneur n'est pas revenu la semaine prochaine, il devrait y avoir un autre épisode et on change un peu de registre cette fois. On va parler plus d'alimentation. Ça aurait été intéressant d'avoir une perspective théologique justement sur les lois dans l'Ancien Testament sur l'alimentation, mais on veut se concentrer un peu plus sur l'aspect pratique de la nourriture et du jeûne pour la gloire de Dieu. Et je reçois Maxime Daigneault qui était venu il y a quelques semaines pour parler du Nouvel Âge et donc il s'intéresse à toutes les questions de santé, bien-être, mais dans une perspective pour glorifier Dieu avec nos corps. Donc, soyez des nôtres la semaine prochaine pour cet épisode.
Mon épouse pourrait vous en raconter long sur l'alimentation saine.
Ah oui, bon, ben écoutez, faudra nous mettre en contact à ce moment-là, si c'est une des choses qui l'intéresse. Peut-être lui envoyer le lien de l'émission qui va sortir et si elle a des choses qu'elle aimerait ajouter. Est-ce que quel genre d'alimentation qui l'intéresse?
Ah, c'est intéressé à une alimentation enfin, plus qu'équilibrée, l'alimentation la plus saine possible.
D'accord.
Bon, par exemple, remplacer beaucoup de protéines animales par des protéines végétales. Et elle a appris à cuisiner des protéines végétales. Au début, c'était un peu dur de s'y faire. Et donc, elle a appris à les cuisiner de manière à ce que ça passe.
Oui.
Et voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne mange pas de viande. Et on mange de la viande de temps en temps. Mais d'autant plus que nous avons nos poules et nos canards.
Ah oui, bon. C'est bien. Moi, mon épouse aussi a fait un tournant il y a quelques années, mais là, ça va bien. Je rejoins ce que vous dites, là. Elle a appris à bien cuisiner ce qu'on était peut-être moins habitué à manger, mais ça, une fois qu'on sait comment bien l'apprêter, c'est aussi bon.
Ouais. Ceci dit, je ne crois pas qu'elle souhaiterait
participer publiquement. Oui, ouais, c'est la même chose. Ça fait quelques fois, je propose à mon épouse de venir sur des sujets qui l'intéresseraient, mais elle ne veut pas se montrer publiquement. Mais c'est correct.